Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pierrot et la Mégie.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. 9 officiers des FARDC mis aux arrêts et placés ce jeudi sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Bounia en Ituri. Ces chefs d'unité des FARDC sont accusés de détournement de fonds alloués aux opérations militaires en Ituri dans le cadre de l'état de siège à la suite de missions de contrôle de l'inspection générale des FARDC. Examen d'État 2021, promoteur d'une école à Matadi au Congo central dénonce ce qu'il qualifie de monnayage des passations des examens hors session. Il accuse certains examinateurs d'exiger aux élèves des frais supplémentaires au-delà de ce qui avait déjà été payé. L'inspecteur principal, quant à lui, dit mener des investigations. Comment transformer les initiatives agricoles en outils de développement socio-économique au Kasaï central? Serge Kusinga, responsable de l'exploitation au laboratoire du PNUD, viendra nous en parler à la fin de ce journal. Il est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Ce journal est mis en nom de par Alain Goy. En Ituri, 9 officiers des FARDC sont aux arrêts à Bounia et placés ce jeudi sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale. C'est le résultat des enquêtes effectuées depuis le début de cette semaine par l'inspection générale de l'armée conduite par le général Gabriel Amissi Di Tangofor en mission de contrôle depuis lundi dans cette province. Ces chefs d'unité des FARDC sont accusés de détournement des fonds alloués aux opérations militaires en Ituri dans le cadre de l'état de siège. Martial Kizabiamungu.
Il s'agit de 6 colonels de FARDC, dont les commandants adjoints chargés de l'administration de la 32e région militaire, le chargé du social et service patriotique, le 2 responsable du service de renseignement de la région militaire et du secteur opérationnel de l'Ituri et le directeur provincial de la logistique militaire. Dans le même groupe, on trouve un assistant du vice-gouverneur colonel de la police nationale congolaise de son état. Parmi ces suspects, il y a aussi un major et un capitaine. Tous de FARDC. Selon l'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de l'Ituri, ces officiers sont poursuivis pour détournement des fonds dont les chiffres exacts n'est pas révélé à la presse. Ce que l'on sait par contre, l'argent était destiné aux opérations militaires dans cette province depuis le début de l'état de siège. Les magistrats militaires, les colonels Joseph Makelele, indiquent que tous jouissent encore de la présomption d'innocence car selon lui, les enquêtes sur ces dossiers se poursuivent. Il ajoute que l'objectif est de mettre fin au réseau mafieux au sein de FARDC à Ituri, ce qui justifie la mission de l'inspection générale de l'armée dans cette province depuis le dimanche dernier. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous allons encore rester avec vous, Martial Kizabiamungu, cette fois-ci à Bounia encore, pour évoquer cette hausse de la criminalité urbaine qui s'observe au chef-lieu de la province de l'Ituri. 2 meurtres et blessures par balles sont enregistrés ces derniers jours après une petite accalmie. Mardi dernier, le gérant d'une maison des commerces a été blessé par balle au centre-ville et son sac d'argent porté par 2 malfrats, ce qui porte à 3 le nombre des cas de meurtres ou tentatives de meurtre en moins de 2 semaines dans la ville. La société civile Elisabeth habitants parlent des défaillances des services de sécurité pendant cette période de l'état de siège.
Après une accalmie constatée et saluée par tous il y a quelques semaines, Bounia semblait renouer avec les démons du passé. Depuis quelques jours, l'insécurité a refait surface dans la ville. Rares sont les nuits sans coups de balle. Ici, ce sont des bandits qui cambriolent une maison, là un cas de meurtre ou blessure par balle ou encore de tir par des patrouilleurs. La nuit de lundi, vers 18h45, par exemple, des bandits armés ont tiré sur un homme identifié comme gérant d'une entreprise locale. Selon des témoins, ces malfrats qui étaient dans une voiture poursuivaient la victime qui était sur la moto depuis les marchés centrales jusqu'à l'avenue en face de la maison Chenimed. Ils lui ont logé une balle à l'épaule. Avant de se retirer, ces malfrats ont récupéré les sacs remplis d'argent de la victime et tiré plusieurs coups d'effet en l'air pour fuir. Préoccupé par cette situation, le maire de la ville, le colonel John John de Chabouiné demande à la population d'éviter l'indifférence face aux problèmes sécuritaires qui, selon lui, frisent la complicité pour protéger les bandits qui vivent au sein de la société. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, le gouverneur par intérim qualifie de positif les bilans du couvre-feu décrété il y a de cela 14 jours. Afani Idrissa Mangala l'a fait savoir mardi dernier avant son départ pour Kinshasa. Selon cette autorité provinciale, durant cette période, aucun vol à main armée ni des coups de balles n'ont été enregistrés à la première étape de ce couvre-feu. Afani Idrissa Mangala s'est confié à Florence Kizalunga.
Depuis qu'on a commencé ce couvre-feu, il n'y a plus de vol à main armée, il n'y a plus de coups de balles par-ci par-là et il n'y a plus. La fréquence de vol à main armée a diminué. De continuer avec cette pratique, donc le couvre-feu est reconduit jusqu'à nouvel ordre, mais nous avons recalé un peu le temps. Nous allons commencer à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Ce couvre-feu continue. C'est un couvre-feu qui est avantageux pour la population du Maniema et pourquoi pas la population de la ville de Kindu. Nous nous rendons à Kinshasa pour solliciter l'accompagnement du gouvernement central dans cette paix que nous sommes en train de rechercher dans notre pays.
Poursuivons ce journal dans les territoires des Lubero au Nord Kivu où la présence des miliciens Maïmaï dans les carrés miniers du secteur des Bapéri préoccupe les acteurs de la société civile et la Fédération des entreprises du Congo FEC dans les secteurs des Bapéri. Selon eux, cette situation est à la base de la paralysie des activités économiques dans cette zone. Étant donné que l'exploitation minière y est la principale activité, la société civile plaide auprès des autorités pour que ces miliciens soient délogés. Grâce à Hamzati.
Selon la société civile locale, en dehors de la pluie qui perturbe actuellement la production minière dans certains sites, la présence des maïmaï dans d'autres sites reste une préoccupation. Mumbere Kaitupa, président de cette structure citoyenne, parle notamment des miliciens de l'UPLC présents dans les carrés miniers de Gelumbe et Makumbo et les maïmaï Simba à Bilulu. Cela sans compter les maïmaï de l'UPLD qui se trouvent vers la rivière Lindi, à la limite avec la Tchopo. D'autres sources dans la région rapportent qu'un groupe de maïmaï venus de Walikale serait aussi visible à Mwamba, un autre carré minier. Conséquence, les activités économiques sont paralysées et les populations s'appauvrissent chaque jour, l'exploitation minière étant leur principale activité. Selon toujours la société civile qui appelle les autorités à l'aide, la majorité des jeunes oisifs se livrent à la boisson, laissant seuls les vieux s'occuper de l'agriculture considérée comme activité secondaire. Cette situation préoccupe aussi la FEC dans les secteurs des Bapéré. Vincent Melchior, son vice-président, indique que la fiscalité est affectée car les opérateurs économiques ont du mal à payer les taxes. Tous nos efforts pour avoir les chefs des secteurs des Bapéré ainsi que l'administrateur du territoire à ce sujet n'ont pas abouti. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Je le disais tout à l'heure dans les titres, à Matadi au Congo central, le promoteur d'une école de la place qui a requis l'anonymat dénonce ce qu'il qualifie des monnayages des passations des examens hors session de l'examen d'état 2021. Selon lui, certains examinateurs ont exigé aux élèves des frais supplémentaires au-delà de ce qui avait déjà été payé. Ce dernier dit avoir reçu plusieurs plaintes des élèves finalistes dans ce sens qui assimile cette pratique à une forme de corruption. Il appelle les services de sécurité à tout mettre en œuvre pour mettre fin à ce dérapage. Écoutons ses promoteurs au micro de Nana Plurich Mambou.
Les examinateurs exigent 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs pour faire passer ces examens. Et ceux qui donnent l'argent, qui donnent beaucoup d'argent, ils sont favorisés au détriment des enfants qui ont même pleuré. Nous dénonçons parce qu'on est en train de saper, on est en train de déranger le programme du chef de l'État pour que les choses ne marchent pas du côté de l'enseignement. Quand est-ce qu'on a vécu de telles choses? Nous, quand nous avons étudié, est-ce que des dissertations ou bien des épreuves pratiques, est-ce qu'on nous demandait de l'argent comme ça? C'est vraiment regrettable. Et nous demandons au service de sécurité d'ouvrir les yeux et de pouvoir vraiment arrêter cette histoire parce que ça dérange les élèves. Nous sommes en train de nous demander, est-ce que vraiment les inspecteurs, les chefs de centre ont-ils été complices ou ce sont les examinateurs eux-mêmes qui sont en train de faire de telles choses? Parce que vraiment, les enfants ont même pleuré, certains pleuré devant les salles pour participer à ces examens parce que vraiment, on exige de l'argent en dehors de ce qui a été prévu. Même les parents, ils sont en train de regretter et nous dénonçons cela et que cela doit cesser. Parce que si aux examens d'État, les épreuves proprement dites, ça va se passer de cette manière-là. Mais alors, nous allons former qui viendra dans ce pays? Ça ne va pas marcher comme ça?
Contacté, l'inspecteur principal provincial de l'EPST Congo Central dit avoir eu vent de cette situation. Théophile Junior Kiasa indique que les investigations sont en cours pour dénicher ces examinateurs verrés. À Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Maïndombe 1 a réceptionné hier mercredi pour sa juridiction des malles contenant des cahiers d'items des tests de fin d'études primaires TENAFEP édition 2021 qui aura lieu du 6 5 au 6 août prochain. Pierre Daniel Kasongo Mabwibi a indiqué que ces mâles vont être dispatchés et envoyés aux différents centres d'examen. Il a fait savoir que les élèves des écoles publiques ne payeront rien pour participer à ces épreuves, tandis que ceux des écoles privées payeront 17 000 francs congolais. Irène Boma nous fait le point.
Au total, 10 mâles contenant des cahiers du thème pour les tests nationaux de fin d'études primaires, TENAFEP en sigle exercice 2020-2021, ont été réceptionnés mercredi par l'inspecteur principal provincial IPP de la province éducationnelle du Maïndombe 1 à Inongo. Ces mâles d'examen ont été convoyés par une délégation de l'inspection générale de l'EPST venue de Kinshasa. À l'occasion, Pierre Daniel Kasongo a salué le fait que ces examens arrivent à temps. À partir de lundi 26 juillet, ces mâles d'examen vont être dispatchés et déployés dans les différents centres de TENAFEP qui seront organisés dans cette juridiction, a-t-il dit. L'IPP du Maïndombe 1 souligne que ces épreuves seront gratuites pour les élèves des écoles publiques, tandis que pour ceux des établissements privés agréés, chaque candidat payera 17 000 francs congolais comme frais de participation. Pierre Daniel Kasongo demande à tous les candidats d'être prêts dans leurs centres respectifs pour affronter ces examens qui se dérouleront du 5 au 6 août prochain. Irène Boma, Bande Nouville, Radio Okapi.
Rendons-nous au Sud Kivu où le ministre provincial de la Justice sollicite l'aval du gouvernement national pour délocaliser la prison centrale de Bukavu vers l'intérieur de la province sur un terrain faisant partie du domaine public de l'État. Une délégation conduite par le ministre provincial de la Justice auprès de la ministre d'État chargée de la Justice a été reçue en audience mardi dernier ici à Kinshasa. Jean Kassami pour les détails.
Construite en 1928 avec une capacité d'accueil de 500 détenus, la prison centrale de Bukavu héberge actuellement entre 1500 et 2000 pensionnaires dans un état piteux de vétusté indescriptible. Ce tableau sombre a été dressé mardi à Kinshasa par le ministre provincial de la Justice du Sud Kivu lorsqu'il a été reçu en audience par la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo. Jospé Bitafanoa s'est dit satisfait des échanges.
Nous avons préconisé que certaines prisons soient délocalisées qui présentent actuellement des dangers, surtout sécuritaires, comme par exemple la prison centrale de Bukavu. Jusqu'à maintenant, nous sommes en train de laisser l'appréciation auprès de son Excellence, Madame le ministre de la Justice. Il y a déjà des partenaires prêts à appuyer le gouvernement pour ce projet.
Le ministre provincial de la Justice du Sud Kivu ajoute que des discussions sont en cours au niveau du gouvernement provincial pour l'acquisition du terrain sur lequel la prison centrale délocalisée à Bukavu va être construite conformément aux standards internationaux. Nyangezi dans les territoires de Walungu et Kashusha dans Kabare sont des sites les plus ciblés. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, la sensibilisation au respect des mesures barrières a pris une vitesse de croisière dans la ville de Mbujimayi. Plusieurs endroits des grandes artères de la capitale diamantifère ont été barricadés ce mercredi par les éléments de la police nationale congolaise. D'après le commissaire provincial de la police nationale congolaise, cette forte présence des éléments a pour but de forcer le respect des gestes barrières avant la répression. Explication Esther Ndalafina.
Les éléments de la police nationale congolaise étaient très visibles sur les grandes artères. Des barricades ont été érigées à plusieurs endroits, dont notamment au niveau de la mairie, sur le boulevard Musée Laurent-Désiré Kabila et aussi à une dizaine de mètres au rond-point Kimberlit, au niveau de l'entrée du camp Sélé, ainsi que sur l'avenue Inga. Au niveau des marchés, certains éléments de la police étaient aussi visibles pour pousser les marchands et leurs clients à porter les cache-nez. Interrogé, le commissaire provincial de la PNC affirme que ces éléments sont déployés pour la sensibilisation et non pour les arrestations. Roger Singavoda.
Nous avons dit aujourd'hui que nous commençons petit à petit, nous allons prendre de la vitesse au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous expliquons encore. Nous décevons encore descendre le troisième passager et la moto part. Et vous exigez le port du masque. Dans les jours qui viennent, on va appliquer strictement même les amendes. On va mobiliser un agent de la mairie ou du gouvernement.
D'après le bulletin épidémiologique provincial, le Kasaï oriental compte actuellement 45 cas de COVID-19, dont 9 décès. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, le rendez-vous politique tant attendu aura lieu mardi prochain. Le président Alassane Ouattara invite son prédécesseur Laurent Gbagbo à le rencontrer au palais présidentiel le 27 juillet. Depuis le retour de l'ancien chef de l'État le mois dernier après son acquittement à la CPI, le pays est resté suspendu à l'annonce de cette première rencontre censée marquer une étape importante vers la réconciliation nationale et la décrispation du climat politique ivoirien. L'Arabie Saoudite a démenti les accusations infondées d'espionnage après la publication d'une enquête choc affirmant que plusieurs pays avaient utilisé les logiciels israéliens Pegasus pour surveiller notamment des journalistes et militants des droits humains. Un responsable a démenti les allégations parues dans la presse selon lesquelles une entité du royaume aurait utilisé un logiciel pour surveiller les communications, a indiqué l'agence de presse officielle SPA dans la nuit de mercredi à jeudi, sans préciser les noms du logiciel en question.
L'invité.
Comment transformer les initiatives agricoles en outils de développement socio-économique au Kasaï central? Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD réfléchit sur la question avec le jeune à Kananga. Avec son appui du programme Youth Connect, l'ONG Tujukai Développement a organisé un premier sommet agricole dénommé Agrinov. Serge Kusinga est responsable de l'exploitation au laboratoire du PNUD. Selon lui, l'agriculture présente beaucoup d'opportunités pour les jeunes et peut être présentée aujourd'hui comme un secteur créateur d'emplois. Serge Kusinga s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Serge Kusinga, bonjour.
Bonjour monsieur.
L'agro-business, pourquoi le PNUD met à l'avant en plan ces concepts? C'est vrai qu'il est au centre d'un sommet qui met l'accent sur l'agriculture.
Bon, l'agro-business parce que un peu comme dans tous les endroits désœuvrés où le PNUD veut accompagner le gouvernement dans les aspects de développement, nous estimons que comme un peu un constat général, l'agriculture est un domaine pourvoyeur d'emplois mais qui souvent est mal, n'est-ce pas, présenté, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes et compte tenu aussi de la réalité récente avec les récentes violences avec les Kamuina Sapu et autres, il y a donc lieu de mettre en avant ce secteur comme étant un secteur porteur, n'est-ce pas, de création d'emplois, mais aussi de beaucoup d'opportunités d'autonomisation des jeunes et des populations désœuvrées.
Comment ce secteur peut créer de l'emploi et comment cela devient une opportunité d'affaires?
Déjà, le concept d'agriculture, c'est un vaste domaine. Il y a ce que l'on appelle, n'est-ce pas, la chaîne de valeur de l'agriculture où nous considérons un certain pan, n'est-ce pas, dans la construction de ce secteur, notamment vous avez le secteur de la production agricole, mais vous avez aussi le secteur du transport, vous avez le secteur du stockage, vous avez le secteur de la transformation. Et donc dans tous ces différents secteurs qui constituent un peu l'agriculture, la chaîne de valeur agricole dans son ensemble, sont autant d'opportunités de création d'emplois. Donc il y a lieu pour ceux qui sont intéressés par la production, notamment les champs de maïs vers l'Uisa et tant d'autres cultures, n'est-ce pas, de réfléchir sur comment bâtir des fondements solides pour développer cet aspect. Il y a ceux qui seront peut-être intéressés par le transport, n'est-ce pas, c'est comment trouver des opportunités pour fluidifier, n'est-ce pas, le transport et l'évacuation des denrées alimentaires vers le centre de consommation. Il y a ceux qui peuvent être intéressés uniquement par la distribution et d'autres par la micro-transformation voire la macro-transformation si jamais les choses évolue bien et que des plus grosses structures viennent, n'est-ce pas, dans ce secteur-là. Et donc, tous ces éléments mis ensemble sont un générateur d'emploi pour les jeunes, pour les populations, qui d'ailleurs, statistiquement parlant, sont majoritairement dans les métiers de l'agriculture.
Dans la faisabilité, comment aider la population kassaïenne, les jeunes, qui peuvent se dire aujourd'hui que nous sommes engagés à travailler dans l'agriculture?
Voilà, l'objectif principal de ce sommet est de créer une sorte d'impulsion dans la réflexion avec les acteurs qui sont sur place, pour démontrer que la jeunesse qui a été touchée par ces violences ou qui a été tordue par ces violences peut redevenir un moteur, n'est-ce pas, de développement et de création d'emplois en s'autonomisant. Il y a des jeunes ici localement qui font des choses, qui sont dans la transformation, dans la micro-transformation agricole, qui fabriquent du jus que nous consommons un peu ici tous, mais qui ne sont pas mis en avant. Et donc il y avait lieu de les mettre en avant, de les promouvoir pour espérer, n'est-ce pas, avoir une émulation auprès de la population kassaïenne en général, mais spécifiquement les jeunes. C'est pour ça que cette activité a un volet public qui veut inviter, comme une sorte de kermesse agricole, inviter les jeunes et la population à voir, n'est-ce pas, les acteurs locaux qui ont accepté de s'engager dans le secteur de l'agricole pour qu'ils se servent d'eux comme des modèles. Et on ne sait jamais, ça peut créer des vocations auprès des jeunes à s'intéresser plus à ce secteur parce qu'ils auront vu certains d'entre eux réussir dans leur propre écosystème alors que tout le monde dit que c'est impossible. Ça, c'est le premier élément. Donc, nous voulons mettre en avant ceux qui le font déjà pour attirer plus de vocations vers ce secteur. Le deuxième élément, c'est que nous allons mener, n'est-ce pas, une réflexion avec les acteurs qui sont dans ce secteur, qui encadrent les jeunes désœuvrés, notamment les ex-miliciens Kamuina Sampou, pour ne pas les citer, qui sont déjà à l'œuvre, n'est-ce pas, pour les activités de réinsertion sociale, de réfléchir avec eux sur comment intégrer la donne de l'innovation, n'est-ce pas, dans tout ce qui leur donne comme outil de réinsertion sociale, notamment tout ce qui est activité de transformation micro-agricole, leur montrer des nouvelles techniques de labour, pousser vers l'innovation pour être créatif et espérer, n'est-ce pas, créer de la valeur afin de pérenniser cette réinsertion qui doit être un mouvement continu, ainsi de suite.
Monsieur Serge Koussinga, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et merci à l'ensemble de la rédaction qui a concouru à la production de ce journal coordonné par Élisée Chikota sous la supervision d'Alain Hirong et Alain Goyan a assuré la mise en onde. Quant à moi, Piero Elamé, je vous retrouve tout à l'heure à 13h, heure de Kinshasa, mais l'ensemble de nos informations sont sur www.radiocapille.net.